Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto sur Campus Lille le dimanche de 11h à midi au menu de cette émission. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec notre motard luttant de la Fédération Française des Motards en Colère. Guy, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis convaincu que tu vas nous parler contrôle technique.
Absolument, comment t'as deviné?
C'est parce qu'on voit les bécanes sortir en ce moment. Je suis l'actu du contrôle.
Hein. C'est bien, oui, oui, il faut.
C'est en plein débat là actuellement. À Bruxelles.
Et on le verra avec le propos d'Aline Delay qu'on a interviewé.
Je sais qu'il a fait une excursion là-bas au Parlement européen.
Hein, voilà. Donc, elle nous dira ce qu'il faut faire.
Tu as rencontré un député européen de la région. C'est comme ça qu'on dit. Hein,
eurodéputé ou député européen de la région.
Et puis tu as réussi à faire une interview avec lui.
Voilà. Et puis aussi la secrétaire générale de la FEMA, qui nous a donné sa vision de la chose, de contrôle technique. Et donc, elle nous donnera son conseil par rapport à ce que l'on fait dans les prochaines semaines avant le vote.
On en est où, là, dans ce...
Alors, on est à l'examen des amendements. C'est-à-dire que vous vous souvenez, il y a eu un projet rédigé par la Commission européenne en juillet 2012. Ça a mis un peu le feu aux poudres, ça avait conduit ça avait conduit en septembre dernier, en 2012, à une grosse manif. Et puis donc là, maintenant, on en est à la phase d'examen. Donc visiblement, les eurodéputés ont bien été alertés. Les eurodéputés français ont bien été alertés par les motards, la population motarde. Ils connaissent bien le sujet. Donc, examen et vote des derniers amendements le 30 mai ou fin mai, et vote en commission plénière et en parallèlement au Conseil européen en juillet. On n'a pas la date exacte pour le moment.
En juillet
2013.
On sera en vacances alors. On pourra pas manifester.
C'est... voilà. Alors, il n'est pas sûr que ça passe. Hein. Si les deux assemblées, le Parlement et le Conseil, sont absolument d'accord et entièrement, surtout, ça se termine là. S'il y a des divergences, on est reparti pour un tour.
Ah, d'accord.
Et donc là, ça repousserait à fin d'année.
Bon, très bien. Notre invité de cette émission, c'est Christophe Tillemont, le correspondant de Motomag. Christophe, bonjour. Hein. C'est une habitude maintenant. Le premier dimanche du mois, tu nous donnes le sommaire du mag.
Voilà, alors c'est le printemps.
Ça roule.
Il y a des motos partout.
Il y en a partout. Hein. ça y est. Hein.
Voilà, et puis plein de recettes pour aborder effectivement le voyage, la promenade.
Je pensais que tu voulais culinaire, recette culinaire pour la petite.
Il n'y a pas encore de rubrique. Je vais le proposer. Comment emmener le camping gaz sur la moto?
En gros, c'est barbecue, hein. Motard égale barbecue. Ouais, en gros.
Oh non, on peut changer aussi. Hein, tu sais,
pas McDo quand même.
Voilà. Ah non, quand même pas. Non.
Rassuré.
Bon, et la programmation musicale, c'est signé Laurent Rodier.
Wrote it on
Voilà, Guy, la priorité des motards actuellement, c'est le fameux contrôle technique.
Absolument. Revenir sur le projet d'harmonisation au niveau de l'Union européenne et donc qui concernerait l'ensemble des pays, des 27 pays de l'Union européenne. Alors, fin avril, le 23 avril, on est allé voir Monsieur Dominique Riquet. Qui est le vice-président de la Commission des transports et du tourisme au sein de Bruxelles, de l'Union européenne, qui est également maire de Valenciennes entre 2002 et 2012. Et il est passé adjoint récemment, depuis 2012. Et il est aussi vice-président de Valenciennes Métropole. Alors il nous a reçus. L'objectif pour nous était de faire un point d'actualité sur ce dossier, ce projet, qui va être, comme on le disait en début d'émission, soumis au vote à la mi-année, normalement, s'il n'y a pas de dérapage. Alors vous allez voir qu'il y a deux parties dans l'interview. On va le faire en deux fois parce que c'était un peu long. Et donc dans la première partie, on lui pose des questions par rapport aux éventuelles modifications qui auraient été apportées au texte. Donc vous verrez, il n'y en a pas. Hein, c'est son propos. Et donc après, on lui pose la question par rapport à la possibilité de retirer de ce projet les deux roues motorisées. Ce qu'on appelle les catégories L2, L3 en termes de type de véhicule. Et donc vous verrez comment ça se passe. Monsieur Riquet, bonjour. Merci de nous recevoir pour actualiser les éléments sur le dossier du contrôle technique, le projet qui est passé par le Parlement européen. Donc en première question, est-ce que par rapport aux éléments que vous avez apportés dans l'interview de Moto Magazine, est-ce qu'il y a des modifications apportées par les personnes qui ont construit le dossier ? Des éléments nouveaux sont-ils intervenus ? Et y a-t-il des éléments encore factuels qui ont été apportés ?
Non, les éléments qui précèdent l'établissement du texte par la Commission n'ont pas été modifiés. Hein, ils sont sur la table. Ceux-là n'ont pas été modifiés. Bon, certains éléments prêtent à discussion ou à contestation, mais les éléments eux-mêmes de la Commission, non. Maintenant, on est dans le débat parlementaire sur le texte proposé par la Commission. Mais on ne revient pas sur les éléments qu'elle fournit.
Alors, les professionnels du contrôle technique automobile ont-ils apporté d'autres arguments ? Ont-ils apporté des éléments supplémentaires par rapport à ce qui avait été dit ?
Non, ils n'ont pas apporté d'éléments supplémentaires. Là, les éléments de la discussion sont ceux que vous connaissez.
Quelle est la nature essentielle des amendements ? Quelle orientation le texte semble prendre ?
Il y a une première demande. La discussion est contradictoire, hein, puisque effectivement. Il y a des députés qui sont plutôt dans un sens, d'autres plutôt dans l'autre. Bon, les éléments essentiels portent sur... D'abord, il y a une demande de transformer ça d'un règlement en directive. C'est-à-dire le règlement s'applique directement et n'est pas transcrit, alors que la directive donne lieu à une transcription qui est plus adaptée, je dirais, au texte des États. Les discussions portent essentiellement sur le caractère de fréquence obligatoire des contrôles techniques, sur quoi les contrôles techniques vont porter, c'est-à-dire quelle catégorie de véhicules ou de remorques, et sur la certification et les modes de fonctionnement des centres techniques. Ça, c'est les trois grands pôles de discussion.
Est-ce qu'on imagine pouvoir éliminer du panel certains véhicules, typiquement certaines catégories de motos, enfin, ou de quadricycles, parmi les catégories L2, L3, par exemple, du modèle ?
Voilà, ça c'est un des cœurs du débat, c'est les deux roues, hein, ou les deux roues et trois roues motorisées. Dans certains États, il y a un contrôle technique obligatoire pour les deux roues et trois roues. Dans d'autres États, il n'y en a pas. Alors moi, effectivement, la question est de savoir si on va rendre obligatoire le contrôle, dans tous les États, le contrôle pour les deux roues et trois roues, ou non. Voilà. Donc là, c'est une discussion qui est très ouverte, parce que les deux positions s'affrontent.
Par rapport l'augmentation de la fréquence du contrôle technique, là je parle pour l'ensemble des véhicules, les quatre roues, enfin l'ensemble des véhicules, est-ce que cette augmentation de fréquence a une chance de passer ? Pour mémoire, actuellement pour nous en France c'est 2 ans, on parle de fréquence à ramener à 1 année. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux par rapport à cette partie-là du texte ?
Et là encore, vous avez deux camps qui s'affrontent. Hein. C'est le camp de ceux qui veulent augmenter la fréquence après le premier contrôle à 4 ans et en faire un contrôle annuel. Et d'autres qui, au contraire, pensent que 2 ans est un délai suffisant. Voilà. Alors là, on connaît le résultat le jour du vote, bien sûr, Puis en attendant, bon, on essaye de chacun essaye de gagner des voix dans le camp d'en face. Voilà, c'est le principe des débats parlementaires.
Bon Guy, on revient un petit peu sur cette interview là, c'est en deux parties, hein. Il y a une autre partie encore.
Hein. Voilà, on l'a coupé hein, pour que ce soit pas trop long. Donc la deuxième partie va entrer un peu dans le vif du sujet par rapport à ce qui va arriver. Dans la première partie, on a vu qu'il n'y avait pas de modification, c'est ce que dit Dominique Riquet hein, par rapport au texte. Et donc il va nous expliquer un peu la démarche qui va dérouler là dans les semaines qui viennent, dans les semaines et mois qui viennent. Vous rencontrez des difficultés pour faire passer ces arguments vis-à-vis d'autres pays, en fait, puis qui ont déjà un pied dans le contrôle technique. Est-ce qu'on rencontre une certaine résistance particulière sur ces sujets-là ?
Effectivement, hein, ceux qui ont déjà un contrôle technique qui s'applique dans des conditions plus fréquentes ou plus étendues sur le champ des engins à moteur pensent que leur position est la bonne. Alors que ceux qui défendent un contrôle qui soit un peu plus espacé ou pas obligatoire sur les deux roues pensent qu'il y a un certain nombre de considérations à la fois sociales, financières, techniques qui ne justifient pas d'accentuer la fréquence et le nombre des contrôles. Voilà. Alors, bon, je pense qu'on ira peut-être vers un compromis. C'est l'art du compromis dans le Parlement européen. Bon, moi, ma position, c'était d'exclure les deux roues, les trois roues du contrôle technique. Bon, je suis en pleine discussion avec le rapporteur sur ce sujet-là. Bon, il y a peut-être une solution de sortie qui serait de laisser cette décision pour les deux roues, les trois roues à moteur dans le cadre de la subsidiarité, c'est-à-dire que ce seraient les États membres qui prendraient une décision à ce propos. Tout en admettant que là où les contrôles sont obligatoires, si les deux roues veulent circuler, il faut qu'ils puissent remplir les conditions du pays dans lequel ils circulent. C'est-à-dire que si on m'écoute, entre guillemets, la France ne rendrait pas obligatoire le contrôle des deux roues ou des trois roues à moteur. Mais en revanche, si vous voulez rouler en moto en Allemagne, là, il faudra que vous ayez effectivement une pièce qui témoigne du contrôle. Ça pourrait être une solution intermédiaire, en tout cas c'est la position que je défends.
D'accord, et donc là ça veut dire qu'il faudrait imaginer quelque chose qui permette aux citoyens français d'obtenir ce document sur place, en France, avant de faire le déplacement.
Bon, je pense qu'il ne serait pas très compliqué de demander aux gens qui font l'entretien habituel des deux roues de mettre en place des systèmes de certification. Ça, c'est pas très compliqué parce que tous les gens qui ont des deux roues, hein, je sais ce dont je parle, bon, font entretenir leur véhicule. Bon, bah, il suffirait à ce moment-là de transformer une opération d'entretien simple, si on veut aller rouler ailleurs qu'en France, en une opération de certification.
D'accord, donc effectivement, c'est du domaine de l'envisageable. Par rapport aux prochaines étapes de ce projet, quelles sont-elles ? Est-ce que vous avez des précisions sur les aspects planning ?
Sur le planning, nous devons voter là-dessus en mai, puis passer en plénière au mois de juillet, donc quelque chose qui pourrait s'appliquer d'ici un an ou deux, quoi, voilà, à peu près.
Pour conclure, votre sentiment par rapport à ce projet ?
Bah, le sentiment par rapport à ce projet, bon, c'est qu'évidemment on ne veut pas apparaître comme des gens qui ne prennent pas en considération les problèmes de sécurité, hein, générale sur la route. Bon, nous n'avons pas été convaincus par les arguments qui démontraient que dans les deux roues, il y avait des problèmes qui tenaient à la sécurité même des véhicules comme une cause de mortalité ou d'accidentologie importante. Bon, c'est clair que le chiffre qui est couramment retenu, c'est qu'il y aurait 0,8% des accidents qui seraient éventuellement dus à des déficiences des motocycles. Donc c'est probablement très marginal, très, très compliqué d'apprécier si ça a une influence réelle. Donc il nous semble que cet argument, si on le met en face des contraintes financières et techniques que ça pose pour les possesseurs de deux roues, ne justifie pas que l'on en fasse une obligation absolue, d'autant que personne n'empêche les gens de faire vérifier leur véhicule autant qu'ils le veulent, s'ils estiment que ça met en jeu leur propre sécurité. Moi, je crois, si vous voulez, que dans le deux roues motorisé, hein, et singulièrement dans la moto, les gens ils sont extrêmement vigilants, voire tatillons, sur l'entretien de leur véhicule et son état. Bon. Il peut y avoir aussi des problèmes en fonction de la nature des deux roues. On sait que les toutes petites cylindrées, hein, 49,9 et en dessous, peuvent poser un petit peu plus de problèmes de conformité, de même que les scooters les plus légers. Il y a des pays dans lesquels c'est effectivement un problème parce qu'il y a une flotte qui est très importante et en mauvais état. Je pense à l'Italie qui a rendu les contrôles obligatoires. Bon, il faut trouver un équilibre, hein, entre l'obligation, ses impacts, à la fois en termes de sécurité, en termes financiers. Bon. Moi, j'ai cru comprendre, en écoutant tout le monde, que les arguments de sécurité n'étaient pas indiscutables pour les deux roues et qu'il y avait une très très grande opposition du milieu motocycliste sur le sujet. Je pense qu'il faut tenir compte de ça.
Merci.
Yesterday morning, let me know you were gone. Suzanne, the plans they made for putting into you. I walked out this morning and I wrote down this song, but I just don't remember who to send it to. Oh, I've seen fire, I've seen rain, I've seen sunny days that I thought would never end. No, for lonely times I could not find a friend, but I always thought that I'd see you one more time again. I've been walking my mind to an easier time, my back turned towards the sun. Turn your head around. I've been sitting here, mama, talking on the telephone. Who about this to come? Sweet dreams and blind machines in pieces on the ground. Oh,
C'est le magazine de la moto, c'est tous les dimanches de 11h à midi avec un spécial contrôle. Alors, ça, bon, on va dire, oh, pour un dimanche matin, il fait beau.
C'est dur,
hein. mais il faut y penser parce que oui. Ça nous pend au nez. Hein, c'est pas une fois que ce sera signé que ce sera.
Qu'on pourra encore agir.
Voilà. Ben voilà, ouais, ce sera terminé. C'est pas la peine d'aller faire des manifs avant, après. Non. Ce sera terminé. C'est maintenant qu'il faut agir. Il y a des pétitions, il y a des choses à faire.
Alors, voilà. Donc,
c'est très important. Et après, ce sera trop tard.
Voilà. Alors, en synthèse, hein, pour revenir sur ce propos-là, et on va le voir en dernière partie d'émission. Avec l'interview d'Aline Delay, qui est la secrétaire générale de la FEMA. Quand je dis nos, c'est les députés, les eurodéputés français. Nos députés européens sont bien informés de cette problématique. Aline Delay, vous verrez, elle l'a bien confirmé. Et quand on discute avec eux, il n'y a pas de souci. Ils sont parfaitement au jus de notre position. En plus, Dominique Riquet l'a dit clairement dans cette deuxième partie.
Ce monsieur Riquet, là,
il est au parfum.
Il est motard ou il roule en
oui,
moto
Apparemment,
lui, il a
fait.
Peu,
alors, plus maintenant.
On va dire, c'est peut-être pas la peine d'imposer un contrôle technique, alors que, bon, les motards, quand tu as un problème, tu peux porter ta machine.
Il le dit, hein.
Chez le concessionnaire, et puis faire la réparation ou la révision.
C'est ce qu'il a dit, hein, clairement, il est.
On rend pas obligatoire.
Voilà. Alors sa position, c'est essayer d'extraire de ce projet les deux roues. Ça, c'est ce qu'il souhaiterait faire. Maintenant, il faut bien comprendre que les Allemands, qui ont un poids important au sein de l'Union européenne, sont pour. Et Dekra, c'est allemand. Hein, donc Allemands l'ont déjà, et Dekra, c'est allemand. Donc on a devant nous une forte
position. Pas, Guy, parce qu'il dit, bon, éventuellement, j'ai bien compris que si la décision, le Parlement européen peut laisser la décision au pays d'imposer ou non le contrôle technique. Mais en France, par exemple, on n'a pas ce contrôle. On va en Allemagne, si on va en Allemagne, alors, on est obligé d'avoir
un document. Qui certifie simplement ce que dit Dominique Riquet, c'est que si c'est le cas, écoute, il faudra se munir d'un document à l'occasion d'une révision chez son concessionnaire qui va certifier que la machine est en bon état. Et donc, il suffira de présenter ce document.
Tu sais qu'il y a une chose, les Allemands, ils sont obligés de rouler en cuir parce que sinon, ils ont.
Chez eux.
Chez eux.
Oui.
Quand ils viennent en France, ils peuvent rouler n'importe comment, en jean ou en cuir. Absolument. On leur demande pas
forcément
un papier.
C'est vrai.
La remontée des fils est interdite en Allemagne.
Alors,
l'interfil.
Oui, l'interfil.
Hein, ouais, quand ils viennent en France, bon, ben, ils remontent les fils comme tout le monde.
Tout à fait.
Hein.
Tout à fait.
On leur demande pas, non, vous êtes allemand, vous restez derrière la voiture.
C'est vrai. C'est une issue sur laquelle il faudra peut-être travailler, effectivement. Hein. Selon la décision que prendra l'Union européenne, il faudra peut-être essayer d'éclaircir, d'amender au sens large la manière de faire. Hein.
Ça c'est un député, européen ici de la région, mais il y en a combien comme ça?
Alors ils sont 574 au niveau des 27 pays de l'Union européenne, et nous on en a 70, enfin j'ai plus le nombre, entre 70 et 74, j'ai plus le chiffre exact.
Bon, nous ici en France on s'est mobilisé pour éviter d'avoir
pour
ce contrôle alerté.
Voilà.
On s'est dit, attends, quand même.
Voilà.
En plus, il dit bien que ça représente un risque de ces 0,6%, hein, en gros.
C'est ça, 0,8%.
Hein. Oui,
Christophe. Oui, je voudrais intervenir dans le débat, parce qu'on ne parle pas du kilométrage fait par les usagers.
Non.
Vous savez qu'il y a une enquête qui a été faite par les pouvoirs publics, les résultats sont dans Moto Magazine. Il y a la moitié des pratiquants qui font moins de 2000 km par an. Donc, un contrôle technique pour des motos
qui
je ne parle pas des gens qui font moins de 1000 km. Alors, c'est vrai que c'est fait sur une analyse statistique sur les motos de 0 à 30 ans. Donc, on sait bien que plus la moto est vieille, moins elle roule. Hein. Mais malgré tout, il faut effectivement prendre en compte le kilométrage moyen des usagers.
La moto, elle n'a jamais rodé, en fait.
Tout à fait. Enfin, alors, pour ajouter un angle.
Ça, c'est le.
Il faut savoir que dans ce projet, on inclut les remorques. La remorque bagagère, là, quand vous partez en vacances ou vous transportez
que
votre
herbe. Éventuellement mettre derrière la moto.
Elle faudra passer
au contrôle technique aussi.
Elle va pas faire beaucoup de kilomètres non plus, quoi. Hein. C'est quelque chose qui. Tu sors deux fois dans l'année. Donc voilà.
Bon, il y a un autre problème, c'est qu'apparemment, on va pas trop en parler, mais il y a certains motards. Nous, on s'est mobilisés contre ce fameux contrôle technique.
En alertant nos députés.
Dans certains pays européens, il y a déjà ce fameux contrôle et apparemment. Alors, les motards de ces pays sont, on va dire,
ne se mobilisent pas vis-à-vis de ce projet pour dire on n'en veut plus. Ouais. On peut le libeller comme ça. Hein. Il n'y a pas d'opposition avérée pour de la part de ces motards pour aller voir leur député et puis dire bah, c'est l'occasion, nous on veut plus parce que ça... Alors effectivement, c'est difficile d'avoir une information sur les 27 pays. Alors de mémoire, ça doit être une dizaine de pays qui n'ont rien. Après, il y a un certain nombre où ils ont un truc entre les deux.
Parce que c'est un petit peu embêtant, parce que si on a, il y a que les Français qui commencent à.
Il y a les Néerlandais, les Belges, les Français, qui sont
sur
reconnus.
27, c'est pas beaucoup quand même. Hein.
Oui, qui sont reconnus pour agir. Les Anglais, ils sont pas trop partants non plus pour avoir ce contrôle. Il faut mobiliser les autres pays. C'est un peu le problème d'Aline Dele, de la secrétaire générale de la FEMA, parce que elle peut qu'inciter les associations représentatives de ces pays-là. Mais si les motards veulent pas bouger, je dirais c'est un peu comme les automobilistes chez nous. Hein. Ouais, donc ça veut pas bouger, voilà. Il faut qu'on mette le portion d'eau.
Le pire, c'est que ce soit une directive.
Alors voilà.
Une directive.
Techniquement, entre guillemets, et pour parler simple, le projet est un projet de règlement. Règlement, au niveau de l'Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est applicable in extenso, sans modification, dans tous les pays au même moment.
Et là, c'est fini.
Et c'est mort, voilà. Et une directive, c'est ce à quoi faisait référence Dominique Riquet. Dans le principe de subsidiarité, ça veut dire que le pays peut appliquer d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a une certaine marge de manœuvre. Et ça, c'est la directive. Donc c'est un peu le plan B. Si on n'arrive pas à enlever les motos, le plan B serait de passer le projet en directive. Aline va en parler, Aline Dallet va en parler dans son interview, où on l'écoutera tout à l'heure. Voilà un peu ce qu'il faut retenir sur ce sujet. But I got to get off my knees. I wanna love you, no I do. But I got to be okay with me to be okay with you. I'm lying to you all the time. But your passive aggressive suits you just fine. I got nothing to hide from you. Sometimes I got to do things you don't want me to do. Oh man.
Voilà, on va passer avec Christophe parce que dans le mag du mois de mai, on a aussi un.
Alors,
un
oui,
petit papier sur le contrôle technique ou CNSR.
Non, pas sur le contrôle technique. Hein. Le contrôle technique, ouais. on en a parlé beaucoup dans les mois précédents. Mais par contre, on revient sur la haute visibilité. Alors, je ne parle pas du brassard, hein, parce que tout à l'heure, on en parlait hors micro. Là, vous savez que Patrick Jacquot, le PDG de la Mutuelle des Motards, est président de la commission Deux Roues, donc au CNSR. Il y a quatre commissions. Il y a une commission alcool, il y a une commission jeunesse et donc la commission de roues. Alors il travaille actuellement sur la proposition de rendre obligatoire la possession d'un gilet de signalisation, donc d'un gilet fluo, comme les automobilistes, mais sans obligation. C'est simplement pour inciter et montrer, parce que qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, c'est d'être visible. Et donc, effectivement, en cas de panne, quand on est au bord de la route, bah, on a les mêmes problèmes que les automobilistes. Ça peut être intéressant de porter le gilet fluo. Donc, ça fait partie d'une des propositions. Donc, le CNSR, qui se réunit donc deux fois par mois, enfin, les commissions, pardon, se réunissent deux fois par mois. Une réunion plénière a lieu tous les deux mois. Et puis, deux fois par an, il y a un comité interministériel. Le prochain, c'est en juin. Et donc, il aura statué sur cette disposition-là. Et puis on parle aussi de, j'en parlais tout à l'heure hors micro, de l'airbag pour les permis de conduire.
Il faut arrêter. Hein.
Je crois que c'est pas fait.
Écoute, non, mais là,
il y a un problème budgétaire. Mais bon, on commence à en parler.
Alors forcément, après airbag, bon, pour les moto-écoles, c'est ça, hein?
Oui, hein, pour l'instant, c'est que pour le permis.
Bon, donc, après, si on rend obligatoire, il faut que les moto-écoles changent encore une fois de véhicule, ou alors ils adaptent un système. Ça, c'est toujours de l'investissement, mais cet investissement, il est répercuté sur le prix de la personne qui vient demander pour passer à la liaison. Et ça coûte encore plus cher, mais il faut quand même. Il faut parce que là, en fait, les moto-écoles ont dû s'adapter pour la nouvelle loi donc, qui était à 34 chevaux, là, les véhicules. Voilà. Voilà. Et à chaque fois, c'est de l'investissement et ça fait augmenter les prix des adhésions pour les.
Tout à fait. Donc là, ils évaluent justement l'équipement airbag entre 360 et 1200 euros. Donc on voit quand même que c'est pas neutre. Hein. C'est quand même une contrainte. D'abord, c'est une contrainte financière pour les auto-écoles et donc le dispositif. Et puis après, bon, on n'est pas encore là. Hein. Mais
ça va vite. Hein. Voilà.
Alors, je voulais évoquer, je suis intervenu tout à l'heure sur une enquête qui a été menée donc par les pouvoirs publics sur combien sommes-nous. Alors ici, autour de la table, on est quatre, mais ici, au niveau de la pratique du deux-roues en France, nous sommes 3 600 000 pratiquants.
Alors, plus que les chasseurs et les pêcheurs,
voilà,
on pourrait peut-être faire un parti, le parti des motards peut-être.
Alors c'est quand même
avec un leader, il faudrait un président peut-être. On trouve.
Voilà. Alors, ce qui a été comptabilisé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les motos de moins de 30 ans. Moins de 30 ans, bon, alors... Moi, je vais faire attention parce que je vais bientôt basculer dans l'autre catégorie. Hein. Et des plus de 30 ans, ils estiment qu'il y en a 100 000 qui sont en circulation. Ouais. Donc, vous voyez, c'est quand même pas la majorité. Alors, qu'est-ce qu'on y note ? Que la moyenne d'âge du pratiquant, c'est 46 ans. Bon, vous voyez, on n'est pas très loin de là.
Hein.
Que des plus de 55 ans, alors, suivez mon regard. C'est 20% des pratiquants.
Heureusement qu'on est à la radio.
Encore un peu plus.
Vous n'êtes pas concerné.
Non, non, nous, on a encore tout le temps. Hein.
Et donc, ce qui est étonnant, c'est effectivement la pratique au niveau des usages, donc les kilométrages annuels, qui, moyen, représentent 3000 kilomètres par an. Alors, bien sûr, ça tient au panel observé, 30 ans. Si on avait pris un panel plus réduit de 15 ans, on aurait des kilométrages plus importants. Hein. Donc, vous retrouverez cette enquête. Hein. Il y a 4 pages là, très détaillées sur Motomag qui reprend toutes ces caractéristiques-là. Et c'est vraiment une donnée nouvelle qu'on n'avait pas et qui permet de bien évaluer la question de la pratique de roue pour les usagers. Voilà. Donc... je sais pas, on continue.
Bah, écoutez, une petite dernière, non ?
Alors, dans le chapitre des mécaniques, là, j'ai relevé une nouvelle moto qui va vous faire plaisir. On a installé une turbine d'hélicoptère dans une moto. Alors, on développe 420 chevaux. Alors, c'est vraiment pour l'anecdote. Hein. Sortez le carnet de chèques. Il y en a pour 170 000 euros. Bon, enfin, si vous voulez la voir.
On peut plus, Christophe. Regarde, il faut payer le contrôle technique, il faut payer les airbags, alors, il faut payer la licence FFM que tu me parlais tout à l'heure. Là. Il faut payer ceci, il faut payer. Bah, que tu veux, tu peux plus après d'acheter des motos, on n'a plus d'argent.
Alors, à quoi ça sert, me direz-vous? Bah, à rien, puisqu'en fait.
Ça décolle même pas.
La précédente machine, elle faisait que 320 chevaux. Ouais. Et de la bouche même du fabricant, ses utilisateurs ne l'utilisent qu'à 70% de sa capacité, ce que je trouve déjà pas mal.
Je préfère m'acheter l'original, un hélicoptère, comme ça je vais pouvoir décoller.
Alors pour rester dans le plus concret et puis le plus adapté, je dirais, au voyage, puisque j'en parlais tout à l'heure, c'est le printemps et bon, on voit que les motos sont sorties, mais aussi on prépare l'été et puis les sorties. Il y a tout un comparatif donc des grandes voyageuses. Hein, donc Guy, la panne européenne fait partie du catalogue, bien sûr. On fera je disais tout à l'heure, les bonnes mémères, et puis on les compare. Alors, évidemment, elle est toujours dans le coup.
C'est vrai que c'est une bonne machine. Hein.
Voilà.
Donc, bien confortable, mais la motarde du jour, hein, qui est avec nous aujourd'hui, ici, dans les studios. Hein.
Voilà.
Et avec qui vous êtes partis ensemble là-bas, au Parlement européen. Hein. Donc, très bon confort. Hein.
Même avec l'âge de ses artères, elle a fort à faire par rapport à la concurrence, hein, mais elle s'en sort avec les honneurs, hein, face à la BM, la 1600 GT. La GTR 1400 de Kawa, la 1200 Trophy de Triumph et puis la FJR 1300, la Yamaha. Voilà, donc.
Tu sais ce qu'on va faire? On va passer un petit morceau de musique parce qu'après, on a Aline. C'est Aline, hein, oui. De la FEMA. Hein.
De la FEMA.
Voilà.
Comes to me in every shade of gray. It comes to me when I got shit to say. Comes to me whether you can see it. Comes to me whether or not you believe it. But not tonight, I know. But not tonight, I know. But not tonight, I know. Comes to me in every shade of green. It comes to me in the in-between. Comes to me whether you can find it. Comes to me whether or not you realize it. Comes to me in every shade of yellow. Comes to me whether you're willing to let go. Comes to me whether you can find it. Comes to me whether you align it. But not tonight, I know. But not tonight, I know. But not tonight, I know.
Comes to me and show me whether. Comes to me whether I'm bigger and better. Comes to me whether you can see it. Comes to me whether or not you believe it. Comes to me when I'm lying in bed. It wakes me upside across my head. Not tonight, not tonight, I know. Not tonight, not tonight, yeah. Not tonight, not tonight.
Et au téléphone, nous avons Jean-Michel Sarrazin. Jean-Michel, bonjour. Jean-Michel, est-ce que tu nous entends? Tu as coupé. Ah, je t'avais dit de rester en ligne, Jean-Michel. Allô, Jean-Michel? Bon, bah c'est pas grave, on aura tout à l'heure, on prendra tout à Jean-Michel tout à l'heure. Guy, on va revenir avec Aline.
Voilà.
C'est Aline.
C'est ça, avec...
Il y a une chanson sur Aline, je me souviens. Alors, je sais plus ce qu'il interprète, mais le nom de l'interprète, mais... Aline. Bon, reviens. C'est la FEMOL. Hein.
Et donc c'est là, c'est la FEMA, je vous le fais en français, la Fédération Européenne des Associations de Motocyclistes. Et donc c'est Aline Delay et la secrétaire générale. Et vous allez entendre, elle a une pêche d'enfant.
Aline, bonjour. Tu es la secrétaire générale de la FEMA. La FEMA, c'est quoi ?
Bonjour, la FEMA, c'est la Fédération Européenne des Associations de Motards. C'est une fédération qui est née d'un rassemblement entre l'EMA, European Motorcyclist Association, et la FEM, la Fédération Européenne des Motocyclistes, en 1998. La FEM elle-même s'était créée en 1988, donc on a dépassé les 20 ans d'existence l'un dans l'autre. Et la caractéristique de la FEMA, c'est qu'en fait, on fédère des associations nationales de motocyclistes. On peut avoir plusieurs associations nationales par pays, ça arrive. En France, on n'en a qu'une, mais dans des pays comme le Danemark ou l'Angleterre, on en a plusieurs. La condition pour être membre FEMA, c'est qu'il faut être représentatif et il faut être national. Donc on ne fédère pas des clubs, on fédère des associations de motocyclistes.
Quelle est la vision à la veille de l'examen des amendements apportés au projet de contrôle technique ?
Je suis un peu réservée par rapport à l'évolution du dossier sur le contrôle technique. J'ai bien entendu les remarques du député Riquet. Bon, c'est sûr, il a des informations internes que je n'ai pas. Je sais que la délégation française est forte et donc a une certaine volonté de faire avancer les choses dans un certain sens. Et la France est un gros pays au sein du Parlement européen. Mais je sais aussi que l'Allemagne est un gros pays qui va tout à fait à l'opposé de la France. Et donc après, on va se demander... L'analyse par rapport à la directive, moi, je ne suis pas convaincue que le fait d'avoir une directive va forcément sauver le contrôle technique pour les motos. C'est vrai que les États membres vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Je ne sais pas dans quelle mesure. Je suis un peu réservée quant à cette analyse légale. Je serais beaucoup plus rassurée si on faisait comme le Conseil, c'est-à-dire les États membres, si on excluait spécifiquement les motos du texte, c'est sûr. Maintenant, il y a la réalité et puis il y a les compromis. On doit se mettre d'accord à 27. Il n'y a pas que les motos, il y a plein d'éléments. Et si jamais on ne parvient pas à éjecter les motos du texte, alors oui, la solution, le plan B, quelque part, ce sera effectivement de laisser le choix aux États membres de faire ce qu'ils veulent. Mais il faudra que ce soit bien balisé, parce qu'ils feront quoi, les États membres ? Ils feront quelque chose qu'ils veulent ou quelque chose qui a quand même été écrit dans le texte tel quel ? C'est toute la question.
Toute la difficulté de décliner, en fait, la loi, en fait, et comment la transposer.
Transposer, puis comment elle est transposable ? Qu'est-ce qui a été écrit au départ ? Si, pour parler de manière un peu concrète, le texte dit « Les États membres peuvent organiser le contrôle technique à leur bonne convenance, mais s'ils l'organisent, ils doivent l'organiser de telle façon. » On a eu le même coup avec le permis de conduire. Le permis de conduire, c'est aussi une directive, et soi-disant les États membres pouvaient organiser le permis de conduire, et puis malgré tout, on est obligé de suivre un canevas avec un certain nombre de formations, un nombre d'années minimales entre les différentes catégories, et ça a été écrit au niveau européen. Et les États membres ne peuvent quand même pas faire ce qu'ils veulent.
Le planning des prochaines opérations, c'est quoi ? A priori, on va voter les amendements début mai, et ensuite ?
On va voter les amendements en commission de transport. Après, ça va en plénière.
En juillet.
Donc, entre le vote des amendements, on va voir comment évoluent les discussions à présent. Je ne sais pas quel va être le résultat. Et la plénière de juillet, il y aura encore beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on ne se concentre que sur les députés du comité transport. Au-delà du vote en comité transport, ce sera plutôt un jeu de pouvoir entre les groupes politiques. C'est-à-dire que ce sera les socialistes par rapport aux conservateurs, par rapport aux écolos, et ce sera plutôt des positions de groupes politiques. Donc l'information des groupes politiques sera travaillée ultérieurement.
Ultérieurement, mais avant juillet, avant le vote.
Avant juillet, au mois de juin, oui.
Alors justement, comment on peut aider la FEMA aujourd'hui ?
Je pense qu'il est très utile de suivre concrètement les directives que va donner le secrétariat général de la FFMC, parce que ça va évoluer. C'est-à-dire que l'information, nous, motards, on n'est pas d'accord, il est déjà passé au niveau des eurodéputés. Ils le savent. Donc là, maintenant, les eurodéputés doivent bosser. Ils doivent proposer des amendements, les suivre, adapter les amendements, voir comment et se tenir informés. Pour ce qui concerne les députés français, vraiment coordonner ça avec la FFMC. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus qu'il y ait du chevauchage dans les messages et dans le travail d'information. Idéalement, il faudrait que les autres motards européens fassent la même chose avec leurs députés. Par exemple, on a des problèmes avec l'Allemagne, qui est évidemment un gros pays, et nos associations allemandes ne bougent pas. Elles ne bougent pas, elles ont un contrôle technique.
Ok, bah merci Aline de toutes ces informations.
Merci beaucoup.
Alors voilà, donc Aline, c'est donc membre de la FMA, hein,
c'est la secrétaire générale
qui regroupe voilà. Toutes les associations de motards en Europe.
En Europe, absolument. Et qui fait du lobbying au niveau du Parlement européen. Donc c'est Aline qui va distribuer des tracts, des feuilles d'information, qui cherche à rencontrer le patron du projet, hein, Werner Kuhn. Et malheureusement, elle n'a pas pu obtenir de rendez-vous. Donc ça fait partie des infos qu'on a données dans Motomag en disant ben, on n'est pas d'accord que les consommateurs ne puissent pas donner leur avis. Alors pour résumer, donc, on peut très vite, puisque l'émission tourne, on peut remercier toutes celles et tous ceux qui ont écrit aux députés qu'on avait cités, hein, pour le Nord-Pas-de-Calais, il y en avait 6. Donc maintenant, cette phase-là, c'est terminé. C'est plus nécessaire d'écrire. On l'a entendu, Dominique Riquet est bien au courant, c'est le vice-président de la commission de transport, et les contacts qu'on a eus de part et d'autre montrent bien que tous les députés français sont bien au courant de notre position. Et donc maintenant, comme le dit Aline, il faut que ces députés bossent et travaillent dans le sens pour faire avancer les choses et convaincre en fait les autres partenaires de l'Union européenne, pour dire en trois mots. Alors on verra d'ici quelques semaines s'il y a lieu de bouger ou pas, comme le dit Aline. La FFMC passera une consigne quelconque, enfin, on ne l'a pas pour le moment, mais selon la tournure que va prendre les événements, on fera passer un message.
If that be true, doctor, I'll be coming back tomorrow.
Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Nous avons Jean-Michel Sarrazin en ligne.
Oui.
Au téléphone. Donc, tout à l'heure, à 15h, c'est la quatrième bénédiction des motards avec l'abbé voilà, Jeannin.
Jeannin, oui. Ouais.
Donc, oulala, il y a de l'ambiance déjà là-bas. C'est à Bailleul, hein?
Ah, c'est à Bailleul, en plein centre-ville de Bailleul, ouais.
Donc, c'est la braderie, il y a plein de choses, là, aujourd'hui, alors, à Bailleul.
De la rue Philippe Ventigem.
Voilà, très bien, ouais, Ventigem, c'est ça. Donc, voilà. Bah, il faut, si on veut se faire bénir, hein, il faut venir à quelle heure? Il faut prendre un 14h, un petit peu, quand même, avant.
Ouais, il faut venir un petit peu à l'avance, hein, le temps de parler bonjour, comme ça.
Voilà.
Puis il y aura du monde, hein, surtout qu'il y a les 4 jours de Dakar qui passent à Bailleul.
En plus, oh là là, mais c'est, disons, on peut y arriver là, on peut accéder.
Oui, il n'y a pas de souci, ils traversent pas le centre-ville les 4 jours de Dakar.
Bon, c'est la quatrième édition, l'année passée, vous avez eu beaucoup de motards?
Oh là là, oui, on avait presque 300 motards.
Ah ouais, quand même, bon, bah alors, il y a du boulot l'abbé, hein. Donc, c'est sûr. Voilà. Bon, bah écoute, voilà, on a lancé le message, hein, 15h, Bailleul, hein, bénédiction voilà, par l'abbé Jeannin, voilà, à Bailleul.
Il est suivi d'une petite balade en moto dans la région.
Et une petite balade, effectivement, en Flandre.
Voilà.
Et avec le soleil qu'il y a aujourd'hui,
il fait magnifique.
Ça va être super.
Le ciel bleu, il y a une bonne fanfare, tout va bien.
Oh alors, que du plaisir, Jean-Michel.
Que du bonheur, tout à fait, ouais.
Très bien, ben merci d'avoir répondu à nos questions.
Il n'y a pas de quoi, c'est moi qui vous remercie.
Et bonne balade.
Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir.
Bon, Christophe, on revient un petit peu, on termine ce sommaire du Motomag.
Alors, bah, une transition toute simple et toute trouvée, là, parce que si on rate la bénédiction ce dimanche, on peut revenir en deuxième semaine.
Ah, ben oui.
Voilà, moi j'ai une deuxième bénédiction à vous proposer dimanche prochain, donc ouais. Ça sera à Béthune. C'est le Motartois, hein, donc un rassemblement qui se déroule sur 3 jours avec expo, balade rétro le samedi et bénédiction, donc le dimanche.
Mais tu sais, je me pose la question, est-ce que vraiment ça marche la bénédiction, là?
Bah écoute, il semblerait.
Quand tu vas te faire bénir, c'est pour quelque chose.
Ah oui, alors.
Est-ce que ça marche?
Bon, il faudrait demander le retour.
Comme tu dis, Motomag a fait une petite étude là sur le nom de motards, tout ça. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que les motards qui ont eu une ou deux ou trois bénédictions, c'était au nombre? Si tu fais bénir 3 fois, peut-être que t'as moins.
On peut profiter de l'antenne.
Tu cumules les bénédictions.
Pour lancer un appel. Hein, donc, bon, pendant que je suis aux appels, là, justement, je voulais en lancer un par rapport au radar. D'abord, vous prévenir. Sur la route des vacances, sachez que le radar qui est sur l'autoroute A1 au kilomètre 206 quand on quitte Lille, donc c'est plutôt en région parisienne, il a flashé 275 fois par jour. C'est un des records nationaux. Il fait partie du top 10, hein, des 10 premiers radars qui flashent. Bon, et dans le sens inverse, lui, il a flashé 257 fois. Donc, méfiez-vous, hein, quand vous quittez Paris, il y a une limitation à 90, et donc, vous ne faites pas piéger là.
Lui, il mériterait qu'on mette un autocollant radio sur le...
Par contre, ce matin,
sur la vitre.
Ce matin, j'entendais à la radio, on recherche la personne, puisqu'il y en a eu un qui s'est fait flasher en Corrèze, il y a un radar qui a flashé une fois sur une départementale. Donc, on ne sait pas qui c'est, mais on aimerait bien le savoir. Bon, on va. Plus sérieusement, les radars, ça marche parce que l'année dernière, ils ont fait 730 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Oh là, c'est
donc, méfiance quand même sur la route.
Hein, comme ils disent, c'est pour notre sécurité.
Oui,
hein.
C'est pour notre
donc,
sécurité.
Forcément, ça a toujours été pour la sécurité.
Bien sûr.
Voilà. Alors, bon, on était sur l'agenda, je continue. Donc, dans 15 jours, ça sera le Grand Prix de France, moto. Hein, donc, vous avez une interview de Claude Michy, l'organisateur, son 20e, qui revient donc sur cette compétition unique en France, hein, puisqu'il n'y a qu'un terrain de jeu, c'est Le Mans, et donc ça sera la 4e manche de la saison, hein, donc qui compte 18 épreuves. Et puis d'autres rendez-vous, si vous voulez sortir la moto, donc profitez-en à Gunicourt, c'est dans l'Aisne, le 26 mai, c'est une fête de la moto, un festival de la moto à Bouchain, randonnée quad le samedi, balade le dimanche, c'est le 1er et le 2 juin. Et puis là, tout de suite, mercredi...
Bénédiction.
Non, à Vennes-le-Sec. Donc, également là, un rassemblement, donc l'occasion d'aller rencontrer les copains.
Avant, t'avais droit à striptease. Mais non, c'est bénédiction. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... Bon, voilà, faut qu'on arrête, parce que là, l'émission se termine.
Un peu short
au niveau de temps. Bah, écoute...
On se retrouvera le mois prochain.
C'est la dernière, messieurs, là. Hein. Ce sera le 4 juin. J'ai bien marqué, c'est le 4 juin, je crois.
Le 2 juin.
Pour que j'ai mis 4, je sais pas pourquoi. Donc on se retrouve le 2 juin pour la toute dernière. Ça sera embêtant, Guy, parce qu'on pourra pas suivre le contrôle technique en juillet.
Oui, en juillet, ça
va être dur. Bon. Bon, ben, c'est pas grave, passez un bon dimanche, au revoir. Merci, merci à notre motard d'être venu avec nous aujourd'hui. Qui n'a pas parlé beaucoup quand même, hein, parce qu'elle aurait pu, mais. Allez, rendez-vous dimanche prochain à 11h pour le magazine de la moto. Au revoir.